Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Bienvenue à l'écoute d'Afrique 7 jours qui vous est proposée aujourd'hui par Marie-Ange Piron. Nous reviendrons sur un chapitre douloureux de l'histoire de l'île Maurice. C'est la souffrance des habitants des Chagos expulsés de leurs îles. Ensuite, et comme toujours, Afropresse ou l'Afrique à travers la presse allemande. Entre 1966 et 1973, les Britanniques déportent l'ensemble de la population de l'archipel des Chagos, un chapelet d'une soixantaine d'îles situées au milieu de l'océan Indien, pour permettre la construction de la base américaine de Diego Garcia. Les Chagossiens sont débarqués et laissés sans ressources sur les quais des Seychelles et de Port-Louis à l'île Maurice, qui a vendu leur archipel aux Britanniques au moment des négociations pour son indépendance. 40 ans après, le combat se poursuit pour obtenir leurs droits au retour dans leurs îles. Un reportage de Raphaël Kraft à l'île Maurice.
Tiens à 13 ans, mais oui, moi tiens à 13 ans dans sa gosse. Tiens à 13 ans, couteau de coquetis dans mon lamé.
J'avais 13 ans à Chagos. J'avais un couteau à décoquer les cocos dans la main et les Anglais sont arrivés. Ils nous ont déracinés, chante Chérubin Bancou dans la cour de sa petite maison du quartier pauvre de Rochebois dans la banlieue de Port-Louis, la capitale mauricienne. Il est né quelques mois après que ses parents furent déportés de l'archipel des Chagos en 1967. Willin, sa mère, 85 ans aujourd'hui, se souvient.
On a quitté nos îles où on était bien. On mangeait bien, on buvait bien. On n'avait pas de soucis. Il n'y avait pas de loyer à la fin du mois. Quand nous sommes venus à Maurice, il y en a qui sont morts de chagrin. Que pouvons-nous faire ? Juste prier Dieu de nous donner du courage et de veiller sur nos enfants et petits-enfants. Je suis très triste aujourd'hui. Et si malgré mon grand âge, je pouvais retourner là-bas, je serais très heureuse. Je sais que chez moi, je serais bien. J'aurais tout ce qu'il faut pour vivre.
Comme la plupart des quelques 2000 habitants de l'archipel, Willin travaille alors pour la Chagos Agalega Limited qui exploite le copra dans l'archipel des Chagos situé à environ 1500 km au nord-est de l'île Maurice. Son mari est pêcheur. Ils mènent une vie simple sur une des 5 îles habitées que compte cet archipel aux paysages idylliques. Sans électricité, loin du monde et de la guerre froide qui bat son plein. Jean-Claude de Lestrac est ancien ministre des Affaires étrangères de Maurice.
Nous sommes dans les années 60. Les Américains constatent qu'un certain nombre d'États africains sont en train d'accéder à l'indépendance. Et se pose la question de savoir, mais où est-ce qu'on va installer nos futures bases militaires si tous les pays deviennent indépendants ? Et se met en place aux États-Unis à ce moment-là une grande stratégie d'achat d'îles. Les Américains très prévoyants identifient un certain nombre d'îles dans diverses régions du monde, y compris dans l'océan Indien, et c'est ainsi qu'ils découvrent l'archipel des Chagos.
Pendant ce temps, Maurice négocie son indépendance avec la couronne britannique. Au terme de l'accord, l'archipel des Chagos est vendu par les Mauriciens aux Anglais pour la somme de 3 millions de livres sterling. Une des îles de l'archipel, Diego Garcia, sera bientôt louée par le Royaume-Uni aux États-Unis. Ils vont y établir une des plus importantes bases militaires hors de leur territoire. Entre autres conditions, que l'archipel soit vidé de sa population.
Et les Britanniques, donc, poussés par les Américains, vont organiser la déportation des Chagossiens. Et ça va se dérouler sur un certain nombre d'années. Ils vont d'abord commencer par abandonner les Chagossiens à leur sort. Les bateaux de ravitaillement y vont de plus en plus rarement. Et un beau jour, ils débarquent en disant « Il faut partir ce soir, il n'y aura plus de bateau. » Ils réunissent les chiens, ils les brûlent devant les Chagossiens qui pleurent. Et il embarque le reste de la population qui était encore dans l'île et les amène sur les quais de Port-Louis et des Seychelles et les abandonne là à leur sort.
Fais le bateau, allez là-bas, fais le bateau à l'île d'Ego.
40 ans après ce dernier voyage, les natifs des Chagos disparaissent tour à tour. Deux femmes, Lisette Talat et Charlesier Alexis, passionnariat de la cause chagossienne, se sont éteintes en 2012 à quelques mois d'intervalle. Les chagossiens luttent toujours pour le droit au retour sur leurs îles. En vain, jusqu'à ce jour. En 2009, les autorités britanniques ont établi un parc naturel marin dans l'archipel des Chagos, qui n'inclut pas la base américaine de Diego Garcia. Un câble de l'ambassade américaine à Londres destiné au département d'État et révélé par Wikileaks citait un officiel britannique qui affirmait que l'établissement d'un parc marin dans l'archipel achèverait de contraindre les Chagossiens à renoncer à leur droit au retour. Il ajoutait que le lobby environnementaliste en Angleterre était bien plus puissant que les avocats de la cause chagossienne.
C'était un reportage donc de Raphaël Kraft. L'Afrique dans la presse allemande cette semaine, c'est tout d'abord le Kenya. La cérémonie d'investiture du nouveau président, Uhuru Kenyatta, a mis un point final à une procédure électorale de plusieurs semaines, écrit la Berliner Zeitung. Il n'y a pas eu de répétition des violences d'il y a 5 ans. Le nouveau président a promis de servir tous les Kenyans et pourtant le pays reste profondément divisé, souligne le journal. Le fils du fondateur Jomo Kenyatta a été élu principalement avec les voix de son groupe ethnique, les Kikuyu, et celles du peuple de son numéro 2, les Kalenjin. Son adversaire Raila Odinga a pu compter en revanche sur l'appui des Luo. La Süddeutsche Zeitung note que le suspense aura duré jusqu'à la veille de l'investiture. Omar El-Béchir allait-il venir ou non ? Le président soudanais était en tout cas invité et un porte-parole du gouvernement kényan avait indiqué que s'il venait, il ne serait pas arrêté. Finalement, Omar El-Béchir a annulé sa visite et épargné ainsi à son nouvel homologue kényan une perte de crédibilité le jour même de son investiture. Car, rappelle le journal, pendant sa campagne électorale, Uhuru Kenyatta a dit à maintes reprises qu'il continuerait de coopérer avec la Cour pénale internationale. Cela se référait surtout, il est vrai, à la procédure en cours contre sa propre personne à La Haye. Il est accusé d'avoir attisé les violences contre d'autres ethnies après les élections de 2007. Le Kenya est donc, à côté du Soudan, le deuxième État dont le président en exercice est inculpé par la CPI, mais Uhuru Kenyatta ayant coopéré jusqu'à présent avec la Cour, il a échappé à un mandat d'arrêt international. C'est ce qui le distingue d'Omar El-Béchir, que les autorités kenyanes, ajoute le journal, auraient donc dû arrêter et livrer à la CPI s'il était venu à l'investiture d'Uhuru Kenyatta. Justice encore, cette fois-ci en Ouganda, où, comme le note la Berliner Zeitung, la Cour suprême a accordé des dédommagements à 2000 petits paysans expulsés de leurs terres pour faire de la place à une plantation de café. Ils recevront l'équivalent de 11 millions d'euros. Et si ce journal berlinois parle de cette affaire, eh bien c'est surtout parce que la société Kaweri, qui gère la plantation, est une filiale du groupe allemand Neumann, lequel a failli à ses obligations en matière de droits de l'homme, a estimé la Cour dans son jugement. Le porte-parole du groupe, Christian Neumann, poursuit le journal, a dénoncé un jugement scandaleux et annoncé que la filiale Kaweri ferait appel. Ce qui est néanmoins incontesté, précise le journal, c'est qu'en août 2001, l'armée ougandaise a expulsé les petits paysans de 4 villages dans le district de Mubende et qu'elle a détruit leurs biens et leurs champs pour faire de la place à une plantation de café de 2500 hectares. Quelques jours plus tard, Michael Neumann, le président du groupe allemand, posait la première pierre en compagnie du président Museveni. Depuis 2002, ces petits paysans ont donc saisi la justice avec l'appui de l'Organisation de défense des droits de l'homme FIAN. Mais, note plus loin le journal, s'ils ont bien gagné leur procès en première instance, ce ne sont toutefois ni l'État ougandais ni le groupe allemand qui devront leur verser les dommages. Ce sont bien plutôt les deux avocats de la société Kaweri qui ont été condamnés condamné par la cour à verser ses dédommagements. L'onde de choc de Bangui, titre dit Tageszeitung, qui note que les secousses régionales consécutives au coup d'État en République centrafricaine n'en finissent pas. 35 000 personnes sont arrivées dans le nord de la République démocratique du Congo depuis que des rebelles ont renversé François Bozizé le 24 mars. Elles s'ajoutent aux 13 000 réfugiés déjà recensés par le HCR. Les provinces congolaises de l'Équateur et de l'Oriental dans lesquelles atterrissent ces réfugiés sont d'une pauvreté extrême, poursuit le journal. Et surtout, ce ne sont pas des amis de François Bozizé. Le nord du Congo est un fief de l'opposant et ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba, lequel comparaît devant la CPI à La Haye, à l'initiative notamment de François Bozizé. Fin 2002, rappelle le journal, l'ancienne armée rebelle de Bemba, le MLC, était intervenue à la demande du président de l'époque, Ange-Félix Patassé, contre l'avancée des rebelles de Bozizé, en vain et au prix d'innombrables crimes. Le rôle joué en 2002-2003 à Bangui par les troupes de Bemba, aux côtés de Patassé, a été repris en 2012-2013 par les Sud-Africains aux côtés de Bozizé. Plusieurs centaines de soldats sud-africains ont défendu la capitale contre les rebelles de la Seleka, en vain, souligne le journal, et au prix de nombreux morts dans leur propre rang. Quand les rebelles ont conquis Bangui, les troupes sud-africaines ont fui au Congo, la RDC. Elles se sont rassemblées dans la ville de Gemena et depuis, note le journal, des témoins font état d'un intense trafic aérien militaire. C'est la fin pour aujourd'hui d'Afrique 7 jours. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation à l'écoute du programme francophone de la Deutsche Welle.